Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Il suffit de lever les yeux pour observer la bataille du ciel. Autrefois, seuls les États s'affrontaient dans l'espace. Aujourd'hui, les entreprises participent à cette nouvelle guerre des étoiles. Qui sont les grands guerriers interstellaires? Que visent-ils? Eh bien, des réponses avec mon invité. Xavier Pascaud dirige la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, l'un des trois laboratoires d'idées français spécialisés dans les relations internationales. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier, intitulé « La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques ». Bonjour Xavier Pascaud. Alors, dans l'ouvrage sur l'entête, il y a écrit « La guerre du ciel est déclarée », c'est ça, vraiment ?
Ben voilà, on est dans un paysage spatial qui est tout à fait différent de celui qu'on a connu, qui était né pendant la guerre froide, très régalien, très, j'allais dire, codifié par la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique d'abord, et puis par les grands pays ensuite. Et puis là, on assiste depuis quelques années à un bouleversement majeur de ce secteur. Avec d'abord des règles qui ont changé entre les États, parce qu'il y a des États qui s'intéressent désormais beaucoup plus à la commercialisation et puis les applications. Et puis il y a des acteurs privés qui se sont greffés là-dessus, entretenus quand même par les États, et notamment aux États-Unis. Parce que ce qu'on doit dire, c'est que ces changements sont d'abord sous l'impulsion américaine, qui a vraiment changé un peu ces grands déterminants du secteur
spatial. Mais ce qui inquiète, et ça c'est dans votre livre, vous le dites un peu, toujours comparé aux années 50-60 de la guerre froide, c'est que vous dites aujourd'hui, eh bien, les acteurs, les hommes ne contiennent plus leur pulsion destructrice dans l'espace. Ça veut dire quoi ?
L'idée que l'espace devient finalement quelque chose qui n'est plus un sanctuaire. Alors, il faut voir que pendant la guerre froide, l'espace était un sanctuaire parce que c'était utilisé aussi entre les États-Unis et l'Union soviétique comme un moyen de se surveiller mutuellement et d'assurer dans le domaine militaire, qui a été vraiment un élément vraiment au tout début de l'histoire du spatial, eh bien, ça a été un élément de pacification des relations avec la capacité à se surveiller mutuellement dans le cadre de l'avènement de l'arme nucléaire, etc. Donc, c'était très codifié. Et puis là, fin de la guerre froide, la fin des années 90 et 2000. Et là, on ouvre un petit peu les robinets. On va utiliser de plus en plus l'espace pour mener des opérations, alors là, vraiment militaires. On va donc multiplier les satellites. Et donc, incidemment, l'espace va devenir partie intégrante des dispositifs de défense. Alors là, on est dans le domaine militaire. Et donc, avec de la part de l'adversaire éventuel, eh bien, l'espace qui devient une cible. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est des manœuvres dans l'espace, des tentatives un peu d'intimidation, avec des tests aussi, des expérimentations pour détruire des satellites. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, ça existait pendant la guerre froide, mais ça n'a... Voilà, c'était plus un affichage, on va dire, de puissance, mais qui n'a pas donné lieu à une course aux armements dans l'espace.
L'escalade ?
Alors, il y a un risque d'escalade. On n'est pas encore dans la course aux armements, mais effectivement, on voit que c'est un peu désinhibé.
Alors, la rupture, est-ce qu'on peut la dater dans ce changement des années 50, 60, 70 et aujourd'hui ? Est-ce que c'est la décision du président Obama de créer le New Space, c'est-à-dire d'ouvrir l'espace aux entreprises privées ?
Oui, alors ça, c'est un élément essentiel, mais qui... a trouvé ses origines un petit peu avant. Moi, je daterais vraiment le début du basculement des années 90. Alors, pour les États-Unis, les années Clinton, en fait. Ouais. Et là, on est vraiment dans un basculement où on passe d'un paysage de guerre froide, structuré par guerre froide. L'URSS s'effondre, la Russie essaye de se reconstruire et les États-Unis se retrouvent seuls et se disent « Mais tout cet investissement, il va falloir que je le réutilise. J'ai investi des milliards dans le système militaire. Il ne faudrait pas que cet investissement soit perdu dans le nouveau paysage géostratégique. » Et on va avoir vraiment quelque chose qui est fondamental et qu'il faut comprendre aujourd'hui pour l'espace, c'est le rapprochement des technologies spatiales et des technologies de l'information qui étaient naissantes à ce moment-là. Dans le domaine militaire, ça va donner ce qu'on appelle la révolution des affaires militaires. Il y a cette idée de faire ce qu'on appelle à l'époque, les spécialistes appelaient ça des conflits réseaux centrés, etc. Et puis, le pendant civil, c'est l'invention de l'Internet. C'est Al Gore, à l'époque, vice-président du président Clinton, qui est chargé de mettre en place ce qu'on appelle les autoroutes de l'information à l'époque, la Global Grid, etc. Et en fait, ce sont les deux pieds qui permettent à l'espace d'avancer désormais dans ce monde des technologies d'information. Et là, on va avoir des décisions présidentielles très fortes. Par exemple, on va autoriser des entreprises privées à exploiter commercialement des images par satellite, qui étaient notamment des images militaires. Donc, on va préparer le terrain. Et je dirais que le New Space va arriver là-dessus. C'est-à-dire que la deuxième génération des gens qui sont nés dans les technologies de l'information, arrivent sur un terrain qui est déjà préparé à la commercialisation et vont en faire quelque chose. Et ça, effectivement, on est dans les années Obama. Et Obama, quelque part, à la fois capitalise un peu sur ce mouvement et lui-même l'entretient et le dynamise.
Donc, vous l'avez dit au début, il ouvre la porte aux entreprises. Il les accompagne aussi
Absolument.
À travers des budgets. Est-ce que ce modèle est particulier aux États-Unis ? Est-ce qu'on le voit en Russie ? Est-ce qu'on le voit en Chine ?
Alors, ça reste singulier aux États-Unis, ne serait-ce que pour une seule raison, c'est que les États-Unis sont le premier acteur économique du spatial. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est à peu près 60 milliards de dollars de dépenses fédérales par an, tout compris civils et militaires, NASA et Pentagone. Et ça, de toute façon, ça donne une vitesse acquise et une masse critique qui est inégalée. Alors ensuite, les pays ont bien saisi qu'on allait vers ce mouvement qui redynamisait l'espace. Les constellations dont on parle, vous parliez tout à l'heure des constellations qui apparaissent, elles s'appuient sur le fait qu'on a besoin d'infrastructures pour ces technologies de l'information. Et d'ailleurs, ça banalise complètement le spatial. Là où on parlait d'objets d'art, où on avait cette culture un peu de l'objet bien fait et sans panne, aujourd'hui, on parle juste d'infrastructures, à la limite de fibres dans l'espace. Ouais. Donc, on déromantise un peu tout ça, on industrialise. Ça, c'est vraiment américain. Donc, on regarde ça de l'extérieur, la Chine, la première, et effectivement, a cette vision possible. Mais ce n'est pas son histoire. Donc, elle invente cette histoire-là aujourd'hui. Elle a les acteurs pour le faire. Elle a une bonne filière spatiale. Elle a des acteurs de la tech. On connaît les Alibaba, les Tencent, etc. Et elle a un gouvernement qui a beaucoup de moyens, qui a des ambitions et qui est capable d'amorcer cette pompe.
Mais elle n'a pas d'Elon Musk.
Elle a quand même beaucoup de moyens industriels et on voit fleurir, par exemple, aujourd'hui, un nombre de lanceurs considérable. L'Europe, on est dans une situation un peu différente. C'est-à-dire qu'on a une bonne filière spatiale, que ce soit satellitaire, que ce soit lanceur. On a eu des petits problèmes avec Ariane 6, mais on sait faire du spatial. Ce qu'on n'a pas, c'est les acteurs de la tech aussi massivement qu'ils existent aux États-Unis ou en Chine. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Avant de revenir sur l'Europe, la Russie.
La Russie, elle, aujourd'hui, est quand même restée un petit peu l'arme au pied, si j'ose dire, heureusement, avec une industrie qui n'a pas su se moderniser autant que dans les principaux pays, en fait, spatiaux. Tout simplement parce que la Russie a continué à miser sur un espace très traditionnel avec très peu, et voire pas du tout, d'embrayage des technologies de l'information sur les satellites, etc. Alors aujourd'hui, elle s'y met, mais elle a vraiment un retard relatif. Mmh. Ça se voit en termes de lancement. Ça reste une puissance spatiale importante. Elle a des compétences et elle sait faire du militaire. Donc, il y a quand même, elle est là comme facteur un petit peu
Dans votre livre, vous dites qu'il y a 90 États environ qui opèrent des satellites, mais qu'en fait, c'est quand même un monopole de trois États.
Bien sûr.
Les États-Unis, la Chine et la Russie.
Il suffit de regarder les statistiques. On est sur d'autres planètes. Quand on regarde les quantités, quand on regarde les investissements, les tonnages en orbite, c'est trois pays essentiellement, faut être clair, et c'est quand même essentiellement les États-Unis. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de 10 000 satellites fonctionnels en orbite. Sur ces 10 000 satellites fonctionnels en orbite, 7 000 appartiennent à Musk. Donc ça, on en est là. Et on vise des quantités à 12 000, voire à terme à 40, 42 000, rien que pour la constellation Starlink d'Elon Musk. Donc on est dans quelque chose de complètement inédit. On commence à faire d'autres métiers dans l'espace aujourd'hui que ce qu'on faisait hier.
Européens, on est largués, là.
Alors, on est largués, on n'est pas largués technologiquement. On va d'ailleurs, il y a une décision récente où l'Union européenne a pris la décision d'envoyer une constellation. Mais là, qui est une constellation qui va surtout servir les gouvernements, les communications un petit peu particulières, sécuriser la défense, la sécurité, etc. Ouais. Mais ça va être quelques centaines de satellites. On n'est pas sur des dizaines de milliers de satellites. Donc, aujourd'hui, l'Europe, je dirais, elle se pose des questions sur elle-même. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une filière spatiale qui tienne la route, et ça, on l'a en Europe. Vous avez besoin d'acteurs qui valorisent cette filière spatiale, et ça, c'est la tech, c'est l'information. Ça, on ne l'a pas trop, on n'a pas ces GAFAM en Europe. Ouais. Donc ça, c'est une question qui se pose. Et vous avez besoin d'un troisième acteur, c'est un pouvoir politique qui trouve intérêt à investir dans cette activité, ne serait-ce que pour amorcer la pompe et pour devenir client, en fait, de ces infrastructures. Aujourd'hui, vous avez un Pentagone aux États-Unis qui est tout à fait là-dessus. Vous avez un gouvernement chinois qui peut avoir intérêt à faire ça. Il va falloir aligner 27 États en Europe. Et donc, il faut un projet politique derrière. En fait, c'est pas seulement l'existence d'un secteur économique là, qui est concerné. C'est le projet politique qui le porte.
Et ça, c'est à construire. Et visiblement, on la comprend pas bien entre une stratégie française qui est sur le traditionnel, l'Ariane, etc., une stratégie allemande qui est plutôt sur le New Space, les start-up, etc.
Donc, ça va être difficile. La France, à vrai dire, investit pas mal dans les start-up aujourd'hui. Il faut juste inventer un peu le storytelling.
Elle tient à son Ariane, quand même.
Elle tient à son Ariane. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, la difficulté de l'Europe, on voit bien, l'Europe est tiraillée avec cette évolution entre différentes stratégies nationales. Ouais. Ça, c'est clair. La France considère, et je pense à juste titre, qu'une filière de lanceurs importante, parce que, attention, ce que fait Musk, ce n'est pas des micro-lanceurs. Il fait du lanceur lourd. Ce que va faire Jeff Bezos, son concurrent d'Amazon et de Blue Origin,
c'est...
Il tire tous les deux jours.
Et Ariane, c'est 10 fois voilà, par an.
On ne fait pas du micro-lanceur. Ouais. L'Allemagne a décidé de s'affranchir un petit peu du tout Ariane en demandant un peu voilà, de soutien pour ces filières de micro-lanceurs. Il faut voir si stratégiquement ça a un sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui doit poser question. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la signification politique de tout ça. C'est qu'on a le sentiment que la cohésion qui existait un peu est mise à mal aujourd'hui par ces tensions extérieures.
Et qui c'est qui va gagner? La France? La vision de la France, de l'Allemagne?
Ariane, aujourd'hui, a fait l'objet d'une décision de soutien de la part de l'Agence spatiale européenne. Ariane va assurer en réalité le fond de l'autonomie stratégique en termes d'accès à l'espace pour l'Europe. Ce sera 10 tirs par an, 11 tirs par an, pas plus. Mais ça nous permet de lancer nos CSO, nos Galiléo. Éventuellement, vous savez qu'on a lancé des satellites européens Galiléo sur les lanceurs américains et ça, c'était un problème.
Merci beaucoup Xavier Pascaux pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.